7h, 9h, plus près de toi.
Non. Nova. Souvenez-vous, c'était hier. Marcher dans la rue. D'un quartier, familier d'un quartier, propriétaire ou loyer d'un quartier. Souvenirs d'enfants, football, gamins de rue. Trottoir, mur, craie sur les murs, quartier on a grandi, quartier. Aujourd'hui on peut aller voter. Sourire à des gens qu'on connaît, mal, un peu, croisés, voisins, commerçants. Plus si on tente. Pousser la porte quasi scolaire d'un endroit qui les autres jours de la semaine recueille du quotidien, de la vie normale. Voir sur un banc de mauvais bois ou une table de formica les chapelets des litanies de noms propres sur du mauvais papier à recycler, à jeter, à récupérer. Faire semblant de tous les prendre comme si notre choix n'était pas fait, comme si on était encore maître de son destin. Trembler un peu, le cœur s'accélère. Sortir des papiers qu'on demande d'habitude qu'à des policiers quand ils veulent l'exiger. Et là, en être fier de son identité. S'enfermer derrière ce petit rideau comme un secret, comme un mystère, comme une solitude glorieuse. Mettre dans l'enveloppe un nom sur lequel on n'a rien rajouté pour ne pas tout gâcher. Et puis s'approcher enfin de cette table où des autorités du quartier, des gens qui se sont dévoués, nous accueillent. À voter, à voter. C'était hier, et on a voté. C'était pas mal. Déçu ou pas, enthousiaste ou effrayé, on a avancé et on a voté.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Moi, je veux bien parler d'autre chose, si vous voulez, mais enfin... Thierry.
Ouais, alors qu'il est, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est puis en fait, on a envie d'en parler. On peut en parler de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de dire oui, alors à ce moment-là.
Le journal de ce cher Thierry paraît à tout de suite, 7h03.
Bonjour à tous. Les sondages ne font certes pas une élection, mais force est de constater quand même que les pourcentages du premier tour de la présidentielle sont à peu de choses près fidèles aux pronostics des instituts. Enfin, en tout cas, l'ordre d'arrivée n'est pas bouleversé. Je vais d'abord vous donner les résultats définitifs du premier tour parce que, bah, certes, les candidats sont arrivés dans le même ordre que celui donné à 20h, mais les résultats précis sont quand même sensiblement différents au regard des premières estimations sur lesquelles vous êtes peut-être resté avant d'aller vous coucher. Les pourcentages ont évolué jusqu'à minuit environ, jusqu'au moment où, en fait, les derniers résultats sont parvenus au ministère de l'Intérieur. Les résultats définitifs, ce sont donc les suivants. Emmanuel Macron 23,86, Marine Le Pen 21,43, François Fillon 19,94, Jean-Luc Mélenchon 19,62, Benoît Hamon 6,35. Ensuite, on passe aux candidats qui ne se feront pas rembourser leurs frais de campagne. Et là, il y a de quoi se les couper pour Nicolas Dupont-Aignan qui arrive avec 4,... Oh pardon, excusez-moi, pardon.
Oh là, l'ami. Oh là, tout doux.
4,73% quand même pour Nicolas Dupont-Aignan.
Qu'à 5% on se fait rembourser ses frais de campagne.
C'est ça.
C'est pour ça que Christophe Ménès n'était pas présenté.
Exactement.
Vous n'étiez pas assuré.
Oui, j'avais aucune chance d'être remboursé.
Vous avez pris le micro.
Alors qu'il avait les moyens, hein, pourtant. Nicolas Dupont-Aignan, donc 4,73. Jean Lassalle, 1,21. Et c'est-à-dire qu'il est devant Philippe Poutou, 1,10. François Asselineau, 0,92. Nathalie Arthaud, 0,65. Et enfin Jacques Cheminade, 0,18. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour. Un second tour que le candidat du Mouvement En Marche remporterait avec 62% selon l'Institut Ipsos, 64% selon l'Institut Louis Harris. On va quand même laisser les gens voter, hein, c'est quand même important. Aucun des autres candidats n'a appelé à voter Marine Le Pen, mais certains en revanche n'ont pas donné de consigne de vote. Alors, c'est pas le cas de François Fillon qui a appelé à voter Macron au second tour dès hier soir et qui a pris acte de sa défaite. C'est pas le cas non plus de Benoît Hamon qui a lui aussi appelé à voter Macron et qui a lui aussi évidemment pris acte de sa défaite. Lourde défaite, hein, puisque le précédent... pour un socialiste, c'est en 69 Gaston Defer qui avait obtenu 5,01%. Oui. Et c'était encore l'ancêtre du PS, c'était
mais
le SFIO.
Vous aviez votre petit Alain Poher à l'époque.
Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc ensuite, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne s'est pas prononcé. Il a annoncé sa volonté de consulter ses soutiens pour décider de l'attitude à adopter au second tour.
Mais Mélenchon, il a dit qu'il attendait les résultats définitifs
qui
vont tomber dans le mois. Donc continuez à voter, continuez à voter et après on verra avec Mélenchon exactement qui y a.
Philippe Poutou s'est abstenu d'appeler à voter Macron. Il considère que le candidat du Mouvement En Marche n'est pas un rempart au FN. Même posture pour Nathalie Arthaud. Enfin, les mots sont différents quand même. Elle refuse de participer à un front républicain de la droite filloniste au Parti Socialiste et donc elle votera blanc. blanc. Nicolas Dupont-Aignan a décidé de se laisser du temps avant de trancher sur son vote au second tour. Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau ne se sont pas encore exprimés. À droite, beaucoup de ténors appellent à voter Macron. C'est le cas d'Alain Juppé, François Baroin, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, pour ne citer que cela. Émanation de la Manif pour tous, le mouvement Sens commun qui a appelé à voter Fillon au premier tour refuse lui de donner une consigne de vote pour le second, en précisant que Macron et Le Pen, c'est le choix entre le chaos et le pourrissement. Autre réaction, elles sont évidemment très nombreuses, on ne va pas toutes les donner ici. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve appelle à voter Emmanuel Macron. Les mots ont leur importance, ils ne sont pas les mêmes pour Pierre Laurent, bien que le résultat mène au même endroit. Le secrétaire national du Parti communiste appelle à battre Marine Le Pen au second tour. Autre réaction encore, mais qui ne sont plus liées au second tour. À droite d'abord, cette défaite est la mienne et c'est à moi seul de la porter, a déclaré François Fillon. Éric Woerth l'a dit autrement, c'est pas la droite qui a perdu, c'est Fillon. Rachida Dati, pour sa part, a dénoncé une défaite morale de la droite. Et alors on notera deux choses aussi. D'abord, dans plusieurs villes, des électeurs ont saisi la justice pour avoir été radiés des listes électorales. Et puis hier soir, plusieurs centaines de jeunes antifascistes ont affronté les CRS Place de la République à Paris. Des échauffourées qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Vous avez peut-être voté hier pour un candidat ou une qui a perdu et vous êtes peut-être très déçu ce matin. Sachez qu'il y en a pour qui c'est la double peine. C'est d'ailleurs le supporter du Paris Saint-Germain qui, par exemple, a voté Mélenchon. Pour lui, c'est la double peine. Ah non, mais j'en connais. Vous pouvez rire, j'en connais. Personnellement, j'en connais. Voilà, Monaco est plus que jamais en tête du championnat de France de Ligue 1 de football. Les Monégasques sont allés s'imposer 2-1 hier soir à Lyon en clôture de la 34e journée. Monaco reprend la tête du championnat avec 80 points. Le PSG a 80 points également, mais Monaco a un match de retard.
Bonjour, c'est Jean Lassalle. Hier, c'est une victoire extraordinaire pour nous. 1,2%, c'est quasiment la majorité, si je sais encore compter. Alors, continuons jusqu'au second tour cette campagne, et puis allons ensemble marcher en montagne, dans les Pyrénées, voir les ours, voir tous les animaux qui sont là. Et puis viens, gamin, qu'est-ce que tu te fais chier à Paris avec ces cons, cravates, en costume. Allez, viens, balle.
Non, on n'a pas eu ça. C'est dommage.
On aurait bien voulu.
Vous avez vu le dernier. On va parler de chacun d'entre vous. Je vais vous poser des questions un petit peu indiscrètes sur ce que vous avez fait hier. Vous savez, oui. Vous y êtes prêts. Thomas Baumgartner, vous le savez.
Oui.
Christophe Méné, Marie Missé se cache. Il y a Tito qui est de retour. Tito Atmen, tout le monde. Armel, à tout de suite.
Plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Vous la connaissez, Marie de Donaonet?
Oui, elle est brésilienne. Elle vient du Nord-Est et elle a signé son premier album à 72 ans. Voilà.
Elle est très en forme. Elle parle de saudade, un peu de mélancolie. Dites-moi, vous avez voté, Marie, vous?
J'ai voté hier, à 9h du matin.
Et dites-moi, 9h du matin, parce que vous n'aviez pas dormi,
Parce que je devais déménager, ça vous intéresse?
Oui, absolument, oui. Mais vous déménagez à la suite d'une rupture?
Non.
Ou est-ce qu'à 65 ans, vous partez enfin de chez vos parents?
C'est plus exact, déjà.
C'est plus de ça. Est-ce que vous vous habillez un peu pour aller voter?
Ah bah, tu vois, j'ai pas changé de vêtements depuis hier. Voilà.
Une bonne nouvelle. Atmen, vous vous êtes habillé pour aller voter?
Oui. Un très beau gilet rouge.
Alors on est sur un...
On était sur une petite soie derrière, comme ça.
Donc un gilet.
Et avec un gilet,
un gilet à boutons, quoi.
À boutons très beau rouge, oui. Une petite chemise bleue.
Bleu, ou la vache, ah oui, vous avez remarqué.
Ah oui, républicain, vache, voilà, et une veste blanche.
Non,
voilà.
C'est vrai ou pas, non?
Oui, c'est vrai. Tout à fait, j'en ai fait un peu des caisses pour aller, pour aller à mon bureau de vote.
Est-ce que
dans
vous faites le personnage du quartier, vous parlez fort?
C'est un peu comme ça. J'ai trouvé les isoloirs pas très isolés, quoi. On pouvait voir les gens.
Ah bon?
Ils étaient pas très beaux. Ils étaient un peu de guingois, moi je trouve.
Vous voulez dire que c'était un mauvais rideau dans un mauvais
rideau,
plastique.
Ils avaient qu'à mettre des fleurs aussi.
Enfin, oui, qu'est-ce que ça coûte?
C'était un vieux rideau de douche, un peu dégueulasse, avec deux vieux bâtons.
Qu'est-ce que ça coûte de prendre un joli rideau,
un joli rideau.
Petit peu brodé? Est-ce que ça coûte
un petit peu de fantaisie dans la mairie du 9e?
Il y avait un orchestre?
J'aurais voulu.
Très bien. Donc vous avez trouvé que vous étiez un petit peu déçu?
Oui, j'ai pas trop fait la queue. Et après, on m'a demandé si je pouvais venir faire le dépouillement.
Oui.
J'ai dit autre chose à foutre quand même, ma petite chérie, parce que j'ai un petit débat après derrière et à manger.
Ouais, vous n'êtes pas très... Oui.
Non, j'ai pas été trop, mais en plus, il paraît citoyen. Que c'est un peu long quand même.
C'est long, mais c'est des bonnes ambiances, je crois, dépouillement. Quelqu'un a déjà fait le dépouillement ici, non? Thomas Baumgartner.
Oui, j'avais dépouillé quelques années, là, pas hier soir, parce que hier soir, à Nova, il y avait le remix de la soirée électorale qui était en fabrication au moment du dépouillement et qui a été diffusé à minuit.
Mais c'est oui, comment un dépouillement alors?
D'abord, ça se passe dans une... Enfin, en l'occurrence, pour moi, ça se passait dans une école. Et c'est toujours... Enfin, il y a quelque chose d'effectivement très républicain scrutin, de se retrouver tous dans une école. Il y a toujours en plus des enfants, souvent, puisque c'est dimanche, on va voter avec ses enfants. Donc ça, il y a quelque chose de très, très, très enfantin, très familial. Et c'est toujours. Oui,
C'est pas l'école où vous avez été, enfant.
Ah non, non, j'ai voyagé.
C'est trop de souvenirs. Et alors là, on vous dit à la fin, on dit tiens, vous pouvez rester. Donc là, on se sent plutôt notable, on est fiers, non?
Non, oui, on sent qu'on a posé la question à beaucoup de monde avant et que personne n'a répondu oui. Mais il y a. Oui, et puis alors, donc c'est la suite, c'est ça, après le vote dans la journée, le dépouillement le soir. Donc oui, il y a quelque chose de. On a l'impression de participer encore un peu plus à ce.
En plus, c'est souvent des gens aussi qui ont pas voté.
Quelqu'un lève le doigt là depuis un quart d'heure.
Je vous en prie, vous n'avez pas levé le doigt, vous pouvez prendre la parole.
J'ai une question, Thomas Baumgartner. Hier, je connais quelqu'un qui était en train de dépouiller à Grenoble et il ne connaissait pas les résultats. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à 20h30 ou 21h, il nous a envoyé un texto. C'est quoi les résultats nationaux? Ça veut dire qu'il y a. Enfin, qu'on est dans des pièces isolées d'Internet ou
bah, l'expérience que j'en avais, je crois que c'était pour les municipales. Donc non, on n'était pas enfermés dans une pièce en plomb. Donc je ne sais pas pourquoi votre contact... voilà,
ça ferait une super pièce de théâtre. Des gens qui dépouilleraient comme ça, qui à la fin ne sauraient pas que le FN est passé ou que le pays a changé. Et comme ça, ils dépouilleraient, des rencontres se feraient. Une jolie pièce de théâtre. Pierre Arditi, Édouard Baird, moi-même, au théâtre. Bernard Murat.
Il y en a qui préparaient ses
Le nombre de pièces de théâtre qui commencent par « Le FN est passé ». Alors, ma pièce, elle est très simple. C'est un groupe, alors, ou de dépouilleurs, ou bien c'est un groupe d'ouvriers, d'agriculteurs, d'acteurs, de machin. Ça marche à chaque fois. Parce que c'est tellement un truc qui m'inquiète beaucoup de gens. Le FN est passé, tout a changé. Je vous remercie. Et dites-moi, vous qui avez été candidat, Dominique, en Lozère, vous étiez
En Occitanie.
En Occitanie, sur toute la région, c'est comme à Lozère.
C'est 13 départements.
Les candidats, on les appelle des bureaux de vote, ils ont des correspondants partout?
Alors, sur une échelle comme ça, vous avez partout des correspondants, partout des représentants dans les bureaux de vote. D'ailleurs, ils sont requis pour surveiller. C'est pas simplement, il y a pas simplement l'idée de la suspicion, il y a aussi l'idée de la pluralité des observateurs pour assurer la qualité du dépouillement.
Alors moi, je croyais que c'était un truc un peu officiel. J'ai voté pour la première fois à Arles hier, et alors on arrive, on est très fiers. Et puis il dit, dites-moi, monsieur Maire, pour le dégât des eaux de la maison, il y a le type l'assesseur qui est là, qui vous parle d'un truc, alors qu'on a envie d'être un peu, on a mis sa petite veste, on est très bien, il y a un type qui vous parle de problèmes de voisinage, merde.
Mais d'ailleurs, pour le dégât des eaux...
Oui, d'accord, à tout de suite, merci.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, une actualité extrêmement actuelle.
Alors, est-ce qu'il s'est passé d'autres choses hier que le vote quand même? Oui. Alors, avant d'aller plus loin avec Dominique Régnier sur les enseignements, j'aime bien parler des enseignements du vote hier. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Il y a bien eu d'autres choses dans d'autres pays, dans d'autres...
Ah, dans d'autres pays?
Non, mais même ici, comme il n'y a pas que les élections.
Genre le club des connoisseurs d'autres nouvelles.
Le club des connoisseurs...
Moi, j'ai un acronyme. J'ai TAD.
Il est très bien, en effet. Ouais, voilà. Autre chose. Allez-y, dites-nous un peu.
C'est le Terminal High Altitude Area Defense.
Qu'est-ce qu'est un acronyme, cher Thomas?
Ah oui, ce sont les lettres qui, formées ensemble, forment un mot. Comme TAD, par exemple. Et donc là, Terminal High Altitude Area Defense, un bouclier antimissile que les États-Unis veulent installer en Corée du Sud. Vous serez prochainement.
Oui, je vais en Corée du Sud pour un festival de cinéma. J'aimerais bien pas me prendre une bombe atomique au coin de la gueule. Donc ça va être mis en place par les États-Unis.
Alors peut-être. En fait, il se trouve qu'il y a une campagne présidentielle. Alors c'est une autre. Mais en Corée du Sud, certains candidats sont pour le TAD, d'autres qui refusent de prendre position. Mais effectivement, il y a un terrain qui a été dégagé officiellement pour les États-Unis pour installer ce bouclier antimissile qui sera évidemment pointé vers la Corée du Nord. Donc ça continue. La tension continue entre la Corée du Nord et les États-Unis et la Chine aussi qui voit évidemment avec des yeux un peu particuliers cette installation des États-Unis quasiment à sa portée. D'ailleurs, les États-Unis, Donald Trump demande à la Chine de prendre position sur cette tension en ce moment dans cette zone-là. Voilà, donc ça continue pendant
toute journée. Il y a toujours des bateaux américains le long des côtes.
Oui, alors ce week-end, Kim Jong-un a menacé d'envoyer des missiles sur un porte-avions ou un sous-marin. Bon, voilà, ça continue.
Je serai pas dedans. Et dites-moi, vous voulez dire qu'ils profitent de la campagne française pour faire
évidemment,
choses,
ils en profitent pendant qu'on s'intéresse pas.
Dites-moi des acronymes que vous aimez bien, par exemple. Qu'est-ce qu'on a de bien en acronyme?
Nova.
Non, parce que c'est pas les. Il faut que ça soit à la fois les initiales de quelque chose et que ça forme un nom.
Mais en marche. Non. C'est Emmanuel Macron.
Non. Non. Mais c'est pas un acronyme, ça.
Dominique Régnier, bouquet de pauvres, mince alors.
LR.
Mais les LR.
SACD, c'est un.
Voilà,
SACD, c'est classe.
La Société des auteurs.
Voilà.
Mais non, c'est pas un acronyme, c'est juste des initiales. Non. Oui, les amis, je trouve qu'on n'est pas très bon. Personne n'a un dictionnaire qui précise Eugénie, soyez sympa.
Un acronyme, il faut en trouver.
Tito, vous qui êtes arrivé à garder de la hauteur par rapport aux choses.
Tito est un acronyme. Tui Aitro Tolo Occitanie.
Tito. L'UNESCO. C'est, un...
ouais. C'est la saison des fraises.
Il attendez, faut... attendez.
Ouais.
Attendez. C'est la saison des fraises. Alors que naïvement, nous croyons que tout se jouait dans les isoloirs et dans le bulletin de vote, non. La réalité était loin.
La réalité est là.
C'est alors, c'est la saison des fraises.
C'est la saison des fraises, il faut manger des
vous
fraises.
Vous avez dit bonjour?
Bonjour tout le monde, excusez-moi. Comment allez-vous?
Voilà. Ça va, Tito? Bonjour.
Alors, oui, c'est la saison des fraises, mais pas encore celle des tomates. Hein, ça, je le rappelle, non. Ne commencez pas à manger de la tomate. Elle ne vient pas, c'est pas du plein air de chez nous.
Pas avant juillet, la tomate. Pas avant juillet.
Alors, les fraises.
Il y a 6 raisons de manger des fraises, 6 bonnes raisons. D'abord, la fraise est riche en vitamine C. Elle est 2 fois plus riche que l'orange ou la mandarine. Ensuite, elle réduit les risques cardiovasculaires. Elle rend les dents blanches. C'est une source importante d'antioxydants. Elle agit donc contre le vieillissement cellulaire et ensuite, elle réduit les risques de cancer. On peut la manger congelée, lyophilisée, etc. C'est très, très bon de manger des fraises.
Alors, où est-ce que ça se trouve, ce produit? Alors, le mec très, très parisien. Je ne comprends pas. Alors, ça a l'air très bien, votre truc, les fraises, mais où est-ce que ça se trouve? Dans quel type de commerce? Sur quel site internet on peut trouver ce produit?
Alors, sur internet, je vous le déconseille, à part lyophilisée, peut-être. Mais dans tous les marchés, les supermarchés, on peut acheter sa petite barquette de fraises. Je vous conseille les garriguettes, les fraises.
Ça file des boutons.
Bon,
moi, alors, ça me file des boutons,
c'est pas grave.
Non, mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai mangé des fraises, j'ai eu des boutons.
Bon, c'est parce que ça t'oxyde.
Alors, c'est un débat qu'on verra tout à l'heure. Mélenchon n'est pas d'accord avec vous. On verra tout ça. Est-ce qu'on retrouve tout de suite Dominique Régnier avant le journal?
Oui, c'est mieux. C'est
beaucoup mieux. Sur l'acronyme. L'acronyme, c'est un substantif qui devient non ordinaire, comme le CAPES, par exemple, ou le BAFA, voilà, qu'on peut avoir. Vous avez compris?
Non.
Si,
c'est
ça
un
passe
nom substantif qui devient. Qui
se prononce
comme un mot ordinaire.
On y reviendra.
Juste,
mais
ça devient un
quand
nom commun.
Quand vous
ne
voulez pas faire un effort,
ça devient un nom commun. C'est le contraire. C'est
mais
un
non,
nom
qui devient un
qui
mot ordinaire, qui devient un nom commun.
Bon, on va, je suis pas.
C'était intéressant.
On va recompter vos voix et puis on reviendra après. D'accord.
Tout de suite, on annonce Dominique Régnier. Il est de retour ce matin. Le meilleur, le plus clair. Que tirait d'hier? Salut Dominique Régnier, c'est ce que vous avez trouvé de mieux comme générique politique, Armel. Merci. De quoi j'ai l'air? Il y a la France, on a mis des cravates pour être crédible face aux grosses radios, RTL, Europe 1, TRN1. Et vous me mettez
je trouvais que ça changeait un peu.
Bon, oui, mais changer de quoi? Méfiez-vous du changement. Dominique, bonjour.
Bonjour Edorbert.
Ce matin, donc vous avez dormi sur ces résultats. Donc Emmanuel Macron en tête et Marine Le Pen. Donc second tour Macron-Le Pen. Une Marine Le Pen qui a combien de voix de plus qu'il y a 5 ans
1,2 million. Elle a fait 2,5 points de plus par rapport aux électeurs inscrits, qui est à mon avis la seule référence possible, puisqu'il y a bien sûr plus d'électeurs inscrits en 2017 qu'en 2012. C'est normal, la population augmente ainsi que la population électorale. Donc Marine Le Pen, pour la deuxième fois, réalise le meilleur score d'un candidat du Front National à la présidentielle, son père ou elle en fait. Elle avait déjà battu le record en 2012, en faisant mieux que son père, plus Bruno Maigret en 2002. Elle bat maintenant son propre record de 2 points et quelques. Donc c'est une vraie progression de Marine Le Pen. Et d'une manière générale, le premier tour a été marqué par... un dynamitage du système politique français. C'est quand même, c'est quand même très impressionnant ce qui s'est passé hier. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, les deux partis de gouvernement, chacun le sait bien, mais enfin, qu'on ne peut plus appeler grands partis de gouvernement, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains, et l'UDI d'ailleurs, qui faisait partie qui soutenait la candidature de François Fillon, ne sont pas au second tour, chacun l'a noté. Ce n'est pas la première fois que le PS n'est pas au second tour. Il n'était pas en 1969... Gaston Defferre, il n'y est pas en 2017. Il n'était pas en 2002 non plus, bien sûr, on s'en souvient avec Lionel Jospin. Mais c'est la première fois que la droite n'est pas au second tour. C'est cette droite qui a fondé l'élection présidentielle. Donc il y a quand même une résonance très particulière. C'est son élection, en quelque sorte, sa République, son élection, les héritiers du gaullisme. Et qu'il n'y ait pas ni la droite ni la gauche de gouvernement au second tour, sous la forme des candidats des partis, est un événement tout à fait considérable. Qu'on a vu se produire en Autriche cette année, enfin en 2016, en décembre 2016, et qui est assez caractéristique de cette espèce de délitement des systèmes politiques dans les grandes démocraties. La France est touchée aussi, et c'est vraiment impressionnant. Ce sera une date qui sera retenue, à coup sûr. Hein. Si on ajoute à ceci le fait que les partis, les candidats protestataires, alors c'est une catégorie un peu générale, dont je n'exclurai, si vous me permettez, pour la comptabilité, que Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean Lassalle, que je trouve inclassable. Tout le reste, on approche quand même les 47% des suffrages exprimés, et c'est presque un électeur sur deux, qui ont soutenu un programme de rupture. Et si on oublie ça, je pense qu'on va se tromper sur le sens de l'élection présidentielle. Il y a un arrière-fond qui est en ébullition. On l'avait vu déjà antérieurement, c'est confirmé. Près d'un Français sur deux est à la recherche d'une rupture. Et d'une façon ou d'une autre, cela va s'exprimer. Dans les urnes, le 7 mai, on ne sait pas très bien. Les sondages, vous les avez indiqués, donnent Emmanuel Macron vainqueur assez largement. Quoique Jacques Chirac, en 2002, l'avait emporté par 60 points d'écart, on s'en souvient.
Il y avait 82-18.
Voilà. C'était ça. Et là, l'écart sera moins important, évidemment. Et c'est déjà un signe. Et puis, on verra aussi, au moment des législatives, et après, parce que j'ai été frappé aussi de voir hier et avant-hier, samedi, des mouvements dans les rues, des mouvements assez violents, peut-être marginaux, on verra, qui, sous l'appellation d'un premier tour social ou de l'antifascisme.
Ou c'est dans la rue que ça va se régler, c'est ce que, oui.
Mais cas, il y a un élément.
C'est ce que vous me disiez, c'était étrange ce spectacle de fête au QG de Macron. Vous disiez, ça n'est pas la fête d'avoir une Marine Le Pen si forte au second tour.
Non, j'ai trouvé
comme une évidence.
J'ai trouvé que c'était l'approprié parce que qu'est-ce qui se passe au fond ? Emmanuel Macron réalise un exploit, ça ne fait aucun doute. Il n'a jamais été candidat à 39 ans. Il est au second tour de la présidentielle et il est présidentiable. C'est aujourd'hui ce qu'indiquent les enquêtes d'opinion, même si ça a été dit à ce micro ce matin, il faut laisser les gens voter. Mais cependant, quelle est la situation ? Nous avons la plupart des électeurs qui ont soutenu un vote de rupture. Les électeurs des partis de gouvernement qui n'ont pas voulu un vote de rupture ont été battus sèchement au premier tour. Il va y avoir beaucoup d'électeurs de droite qui vont voter pour Emmanuel Macron, évidemment. Beaucoup d'électeurs d'une gauche assez dure qui vont aussi voter pour lui. En fait, beaucoup d'électeurs vont se forcer parce qu'ils ne veulent pas le chaos. Ça n'a rien de festif, ça n'a rien d'heureux.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas... J'ai l'impression qu'avant, quand il y avait le traditionnel affrontement gauche-droite, qu'il y avait de conception de la vie, de conception de la société, mais qu'il n'y avait pas ce côté classe sociale contre classe sociale. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce côté-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux pour qui ça roule contre ceux pour qui ça ne roule pas. Il ne faut pas que la candidature d'Emmanuel Macron ait l'air de... Allez, pour nous, ça roule et on croit dans l'avenir et tout va bien. Quoi.
Il faut
s'adresser un peu à d'autres gens.
C'est tout à fait ça. Il y avait deux images hier saisissantes, très polarisées. Il y avait depuis Paris les images d'une foule joyeuse, heureuse, belle à voir d'ailleurs, hein, qui saluait la performance d'Emmanuel Macron et lui-même était rayonnant. Et puis, il y avait à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen, qui a pilonné tout de suite, depuis Hénin-Beaumont, songeons à la différence quand même. Nord-Pas-de-Calais, terre du socialisme historique, du gaullisme authentique, depuis cette espèce de périphérie assumée, la candidate se proclamant la candidate du peuple contre l'argent roi, elle a dit cela, l'argent roi, la globalisation, la mondialisation qui détruit notre civilisation, c'était ses mots. Elle est pour la grande alternance, le grand débat qui n'a jamais eu lieu, disait-elle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce grand débat sur la France dans la globalisation, la France face à l'Europe. Si c'est ça le débat avec elle, en candidate du peuple, se référant explicitement au général de Gaulle, quand Emmanuel Macron, par son âge, par ses études, par son passé professionnel, par son style, peut incarner en effet une France qui réussit, à l'aise dans le monde d'aujourd'hui, connectée, ouverte et culturellement libérale, c'est une confrontation qui est redoutable parce que en 2005, cette confrontation, elle a donné la victoire. Sans stigmatiser, ni résumer tout ça, ni confondre tout, mais enfin, en 2005... Tous les partis de gouvernement appelaient à voter oui, et puis c'est le non, avec 55% quasiment, qu'il a emporté. Attention, c'était un peu le clivage que vous avez...
Parce qu'on ne va pas s'en tirer en voyant toujours uniquement le Front National à son passé, à son histoire et à ses fantômes. Voilà. Merci Dominique Régnier.
Une similitude un peu Trump-Clinton, on a retrouvé un peu ce côté un peu Trump du côté de Marine Le Pen et le côté que
non,
Macron...
Non, je ne dirais pas ça du tout, non.
Non. Moi j'ai trouvé...
J'aime bien dans les débats quand il y a un mec qui se fait engueuler dès qu'il dit un truc. Vous trouvez qu'il y, avait y a un côté Trump-Clinton
Il y a quelque chose comme ça, oui. Ça ne préjuge en rien du résultat qui semble plutôt... les sondages ne se sont pas trompés, ça a été aussi dit ce matin, c'était une bonne chose de le rappeler. Moi, il m'est arrivé de les interroger beaucoup parce que je ne comprenais pas bien cette distribution. Ils ne se sont pas beaucoup trompés, à peine. un peu sur l'abstention, mais ça n'a pas modifié ni le résultat d'ensemble, ni l'ordre d'arrivée.
Atmen, soyez gentil, dites un truc où je puisse vous contredire après.
Marine,
non, je ne dirai pas ça. Non, merci le journal. Merci Atmen. Le journal est 7h35.
Emmanuel Macron, 23,75%. Merci Marine Le Pen, 21,53%. C'est la fin de ce flash.
Non, pardon.
Voici pour les résultats
j'ai
définitifs.
J'ai parlé pendant... Redites, excusez-moi, parce que je salue Dominique. Pardon Thierry.
Il n'y a pas de souci. Emmanuel Macron, 23,75%. Marine Le Pen, 21,53%. Voilà pour les résultats définitifs des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le taux de participation, il s'est établi à 78,69%. Alors, à titre indicatif, c'était 80,42% en 2012. Ensuite, on trouve François Fillon, 19,91%. Jean-Luc Mélenchon 19,64 et Benoît Hamon 6,35. C'est un score historiquement bas. Pour le PS, les autres candidats sont en deçà de la barre fatidique des 5% qui permet de se faire rembourser ses frais de campagne. Et c'est particulièrement cruel et douloureux pour Nicolas Dupont-Aignan qui obtient 4,75% des voix. La bataille pour le second tour, elle a déjà commencé. Aucun des candidats battus n'a appelé à voter Marine Le Pen, mais certains en revanche n'ont pas donné de consigne de vote. C'est pas le cas de François Fillon qui a appelé à voter Macron au second tour. C'est pas le cas non plus de Benoît Hamon qui a aussi appelé à voter Macron au second tour. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne s'est pas prononcé. Il a annoncé sa volonté de consulter ses soutiens pour décider de l'attitude à adopter au second tour. Philippe Poutou s'est abstenu d'appeler à voter Macron. Il considère que le candidat du mouvement En Marche n'est pas un rempart au FN. Même posture pour Nathalie Arthaud qui refuse de participer à un front républicain de la droite filloniste au Parti Socialiste et qui votera blanc. Nicolas Dupont-Aignan a décidé de se laisser du temps avant de trancher sur son vote au second tour. Les autres candidats ne se sont pas encore exprimés. On notera deux choses. D'abord, dans plusieurs villes, des électeurs ont saisi la justice pour avoir été radiés des listes électorales. Et puis hier soir, et on en parlait à l'instant. Plusieurs centaines de jeunes antifascistes ont affronté les CRS Place de la République à Paris, des échauffourées qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Un dernier mot de football. Monaco est plus que jamais en tête du championnat de France de Ligue 1. Les Monégasques se sont imposés 2-1 hier soir à Lyon en clôture de la 34e journée. Monaco reprend la tête du classement avec 80 points, à égalité de points avec le PSG, mais Monaco a un match de retard.
Alors, merci Thierry Barret. Les élections, Thierry.
Alors, les élections.
On
va
en parler
donc,
quand même un tout petit peu. On ne peut pas passer à côté. C'est quand même, il faut vivre dans son époque, il y a eu des élections.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai pas touché un mot dans ce flash et c'est vrai que c'est dommage parce que ça nécessitait effectivement des petites précisions.
Merci. On va Radio Nova. Oui, c'est là. Et on est dans la rue avec Jacques souvent ou pas?
Oui.
Parce qu'on ne sait pas parce que Jenny est partie alors que c'est elle d'habitude qui nous passe Jacques. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe.
Oui, elle m'a laissé toute seule. D'ailleurs, je me sens bien seule dans la rue. Ça va tout le monde?
Ben oui, pourquoi vous êtes seul? Vous êtes où?
Ben je ne sais pas, il n'y a personne, tout le monde est parti, tout le monde a quitté les rues, les places.
Mais vous êtes dans quelle ville, dans quel quartier?
Là je suis rue Buffon, je viens de croiser un mammouth.
Paris 5e, rue Buffon,
ouais.
Près du Jardin des Plantes?
Ouais, bonjour monsieur, ça va? Ça va, yo? Ah ouais, ça va bien. C'est la première personne que je rencontre.
Et alors?
Allez, je suis vachement content. Vous allez faire quoi?
Bah, je vais prendre un café.
Bah voilà.
Ah bah d'accord, avec les schtroumpfs?
Oui, pourquoi pas?
Ah, parce qu'il y a plein de schtroumpfs là.
Eh bah c'est bien, non? Bah,
je sais pas, moi je... À bientôt, bon café, bon réveil. Oui, il y a pas trop de monde.
Pourquoi il y a des schtroumpfs?
Bonjour. Bonjour. Vous avez une place là pour vous garer?
Bah si vous me laissez passer, ouais.
Ouais, voilà, c'est une ambiance étrange ce matin.
Oui.
Mais j'aime bien.
Mais si vous empêchez les gens de passer, c'est peut-être vous qui êtes étrange.
Oui, ça on me l'a dit souvent. Mais alors là, je suis dans un carrefour. Il y a une gare. C'est des très mauvais endroits. Les gens sont très pressés. Bonjour. Et voilà. Excusez-moi. C'est très très mauvais endroit pour faire des rencontres parce que forcément, en plus c'est lundi matin.
Forcer le destin.
Forcer. Ça c'est dur lundi. Hein.
C'est hyper dur le lundi.
Ouais, c'est hyper dur. Ouais.
Qu'est-ce qui est bien comme jour?
J'aimerais bien rester couché.
Avec qui?
Mais il faut bien travailler pour manger, quoi.
Oh, c'est pas sûr.
Manger quoi?
Oh, si, c'est sûr.
Vous mangez quoi? Vous préférez quoi?
Bon, je fais attention à moi, quand même. Donc, j'aime bien les petits plats cuisinés, hein.
Vous avez les yeux grands ouverts. Attendez, regardez, je vous passe un copain.
Tu vas me réveiller.
Je vous passe un copain.
Et bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Il vous met en retard, là?
Non, enfin, un petit peu.
Vous avez une voix très dynamique. On sent que vous avez une démarche très rapide dans la rue, non?
Ah, si, vous avez raison, en plus.
Vous marchez...
Je fais d'accord. Tu fais de la course à pied.
Ah oui, vous avez une voie décidée, quoi. Vous savez où vous allez, il faut pas.
Je sais ce que je veux.
Ah oui, alors vous voulez quoi?
Bah tout.
Ah bah c'est ça. Bah, mais alors, et si jamais vous avez pas tout, vous avez qu'un peu, ça ira quand même?
Bah un petit peu, d'accord, mais quand même, hein, moi je veux beaucoup. Hein.
Il faut vous en donner un peu plus?
Oui.
Vous préférez avoir plus ou avoir mieux?
Mieux quand même. Hein.
Ah bon, vous.
Ouais, c'est mieux quand même.
On va vous mettre un peu.
Cette question a arrêté le dynamisme.
Voilà, tout à fait.
C'est une question à la Jack souvent, ça. Et ouais. on peut savoir où vous allez, là?
Je vais à mon travail.
On peut pas en dire plus sur ce travail?
Je suis fonctionnaire de police, donc voilà.
Vous êtes dans les bureaux ou vous êtes sur le terrain?
Je suis dans les bureaux.
Hein. Et alors, par exemple, quoi? C'est vous qui voyez les plaintes et tout ça?
Non, je m'occupe de l'interopérabilité entre les polices municipales et nationales et je fais des statistiques.
Ah, et alors...
Je suis dans le côté technique, tout ce qui est équipement, Acropole et tout ça. Donc, c'est un peu les équipements de voiture et tout ça. Enfin, c'est spécial, quoi. C'est technique, hein, beaucoup. Hein.
Et ils s'entendent bien, les nationaux et les municipaux?
Il va falloir. De toute façon, on est obligé parce qu'avec les événements qui se passent, on est obligé de tous s'allier pour forcer, pour faire une force, quoi, pour être tous ensemble. Il faut, en cas d'attentat, être tous solidaires, quoi. Donc, on n'a pas le choix et je crois qu'il faut qu'on soit très, très, justement, très fort à ce niveau-là parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense que ce n'est pas fini. Donc, il faut mieux être solidaires entre nous.
Absolument. Au-delà de la police, d'ailleurs, nous tous.
Oui, tous.
Alors, allez prendre un café avec Jacques Souvent, on va voir son degré de solidarité.
D'accord, ok.
Allez. On vous embrasse, chère madame. Ouais.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Salut, au revoir.
Salut.
Partir des schtroumpfs, d'un mammouth, d'une dame qui veut que Jacques Souvent se pousse jusqu'à cet élan de solidarité d'une femme qui avance déterminée. C'est aussi ça le chemin que nous propose Jacques Souvent tous les matins. Alléluia, tout de suite. J'ai une voix de vieux curé.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
7h, 9h, plus près de toi.
Mathilde Lévesque n'était pas candidate hier aux élections, mais on la reçoit quand même. C'est-à-dire que cette émission a décidé de décoller un tout petit peu de la...
Hein,
de la
petite l'ouverture d'esprit aussi.
L'ouverture d'esprit. Ouais. Bonjour Mathilde Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes professeur au lycée Guillaume d'Aulnay, Voilhomme à Aulnay-sous-Bois. C'était qui Voilhomme?
C'est un résistant, c'est le seul lycée qui s'appelle Voilhomme en France.
Oui, je ne connaissais pas ce nom-là. Et vous êtes aussi l'auteur de figures stylées, les figures de style revisitées par les profs, revisitées par les élèves et expliquées par leurs profs. Dites-moi juste une chose, depuis ce matin, on parle d'acronyme. Redites-nous ce que c'est un acronyme, s'il vous plaît, personne n'est d'accord.
Un acronyme, c'est un mot composé d'initiales de plusieurs mots. Et donc les initiales se suivent et l'ensemble se lit lui-même comme un mot.
Alors les plus connus, c'est quoi par exemple? Donc la RATP, c'est un acronyme?
Non, ça c'est un sigle.
Ah, c'est un sigle, voilà.
Le CAPES devient.
CAPES, voilà. CAPES parce qu'on.
Le BAFA
parce qu'on lit la suite d'initiales compose un mot, alors que RATP, on prononce juste les lettres les unes après les autres.
Merci beaucoup. Je me sens beaucoup mieux. Alors, synthétiser Thomas, parce que là, je...
Ah non, mais quoi synthétiser, Mathilde Lévesque publie mais... donc ce livre, effectivement, après LOL est aussi un palindrome, qui était votre livre précédent, figure stylée. C'est une manière, en fait, de rendre justice d'abord à la langue orale, qui est celle de vos élèves, et que vous, comme ça, vous saisissez au vol et vous leur dites, bah voilà, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, c'est une figure de style. Vous faites la liste des différentes figures de style. Et il peut y avoir un zeugma quand un élève vous dit, j'ai le seum, mets une nouvelle basket, par exemple. Ça, c'est un zeugma. Vous en faites la liste et vous les classez dans des sous-ensembles titrés comme noyer le poisson, chatouiller un peu les mots, charger la mule. C'est une manière de dire, en fait, on fait de la littérature en parlant, d'une part, et aussi auprès d'élèves où, par cliché, on n'aurait pas l'impression qu'il y en a. Mais s'il y a quand même de la littérature, en tout cas des figures de style.
Oui, alors de la rhétorique plutôt que de la littérature, je me remercie d'avoir remarqué que c'était une question d'oral, parce que souvent on me dit oui, mais quand même, la langue écrite, oui, mais les jeunes, oui, mais les fautes. C'est vraiment, et heureusement, complètement dissocié. Et donc, effectivement, je prends comme exemple mes élèves, parce que je les connais bien, aussi parce qu'ils font... ils subissent un certain nombre de clichés qu'on connaît tous ici, hein, puisque donc j'enseigne dans le 93. Mais derrière ces élèves-là, c'est aussi l'idée qu'on fait tous de la rhétorique sans le savoir, et que en faisant des choses de manière assez intuitive, en fait, c'est ces figures qui ont un nom à coucher dehors et qu'on a tous plus ou moins vu passer au cours de nos études.
Alors comment ça se fait que vous, Mathilde Lévesque, vous ayez comme ça ce détecteur, justement comme c'est oral, vous l'entendez, vous les couchez sur le papier. Est-ce que ça vient... J'ai vu que vous avez fait une thèse sur le mot d'esprit dans Cyrano de Bergerac. Donc là, on est vraiment justement dans capter ce qui arrive au moment dans le direct de l'échange.
Oui, alors effectivement, c'est de là que ça vient, ma passion pour la rhétorique et le mot d'esprit. Alors pas dans Cyrano, la pièce qu'on connaît tous, mais dans l'œuvre du vrai, celui qui a donné naissance à la légende, qui est un auteur du XVIIe siècle. Donc effectivement, moi j'aime, voilà, ça c'est ce que j'aime étudier, la façon dont les gens rebondissent en situation et trouvent la juste réponse qui leur permet de s'en sortir par le haut.
Il faut aller très vite, d'ailleurs, on l'a vu pendant les élections. C'est très, très étonnant d'imaginer quelles sont les portes de sortie face à une phrase. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on croit. C'est ça qui est assez miraculeux. On croit que, par exemple, entre oui ou non, il y a 1000 autres réponses possibles. Enfin, il y a 1000 façons de s'en tirer dans la vie.
Oui, c'est ça. Et puis, bah, justement, il y a des gens qui font des thèses sur la façon dont se passent les élections. Et donc, il y a des candidats qui sont très forts dans le débat. D'autres qui sont beaucoup plus forts en meeting, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas de parole adverse face à eux. Il y en a que l'adversité, enfin, à qui ça donne de l'adrénaline vraiment et qui sont bons dans ça.
Alors, ce qui est formidable dans votre livre, c'est que parfois on a l'impression, mais ça revient à chaque génération, que le langage d'aujourd'hui est une rupture totale avec le langage du passé, que tout à coup qu'il n'y a plus de filiation. Et là, au contraire, vous nous dites qu'il y a une suite, que les choses s'inscrivent dans une histoire quand même, les mots et les parler.
Oui, c'est ça. Puis moi, j'y tiens beaucoup. Il n'y a pas ni d'arbitraire, ni de... Oui, enfin, il n'y a pas d'arbitraire de la langue. Bien sûr que les choses se poursuivent et ont... une continuité, même si on n'en a pas forcément conscience, et notamment, notamment mes élèves pour qui la rhétorique ne sera jamais un cours dans leur formation, quoi, un cours à part entière.
Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'à l'âge de 15, 16, 17 ans, l'âge de vos élèves, on est une éponge. C'est aussi le miroir de ce qu'est la langue aujourd'hui. C'est l'appauvrissement général de la langue est faux. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en lisant Figure stylée. Il y a dans l'air cette rhétorique. Elle existe et eux la vivent parce qu'ils sont au milieu de la langue.
Oui, alors la rhétorique, moi j'ai une autre hypothèse là-dessus. Je pense que c'est parce que ce sont des jeunes qui sont suspects par défaut, qui se sentent souvent, qui n'ont pas le choix que d'être en situation de défense, qui prend parfois une posture d'attaque qu'on connaît aussi. Hein. Donc je pense que ça s'explique comme ça. Pour ce qui est de la langue, effectivement, ils sont tout à fait capables de maîtriser un niveau de langue courant. Et justement, on me demandait il n'y a pas longtemps si je pensais que Cyril Hanouna était un prescripteur pour le langage de mes élèves. Je pense pas du tout. Je pense que ce qu'on peut voir chez Anna, qui est en commun avec mes élèves en termes de vocabulaire, cette fois-ci pas de rhétorique, bah c'est le mélange de cultures et je trouve que c'est très chouette.
Comment ça s'est passé ce livre avant d'être le livre? C'est-à-dire, est-ce qu'en cours, vous arrêtez une discussion au vol en disant voilà, ce que tu viens de faire, c'est une anachorète
Alors oui, il y a ça. Et puis bon, je consigne souvent, souvent, j'en fais des statuts Facebook, en fait, lorsqu'il y a quelque chose que je trouve judicieux. Ce qui fait que, bon, c'est toujours ou dans un coin de ma tête ou sur un bout de papier ou sur mon profil Facebook. Et bien sûr, je leur explique à chaque fois. Et bah, c'est une façon comme une autre hein, de leur apprendre plutôt que de leur donner des catalogues de figures de style. De leur dire, voilà, là, c'est ce que tu as fait. Là, je fais ça. Et puis, bon, bah, maintenant, évidemment, je suis prise à mon propre piège puisque c'est eux, désormais, qui me signifient que je suis en train d'essayer de les entourlouper.
Ah oui, parce qu'il y a la question de la défense, il y a la question de... C'est une boîte à outils, c'est figure de style, c'est une manière de manipuler la langue et de maîtriser aussi l'échange avec la personne en face. Vous leur donnez les moyens d'être conscient, en fait, de ça.
C'est ça, c'est savoir ce que eux font, mais surtout savoir décrypter ce que l'autre en face est en train d'essayer de faire.
C'est quoi la mode en ce moment chez vos élèves? Quelle est la figure de style la plus prisée?
C'est l'antéoccupation.
Ah, mais évidemment.
Ah, tiens, je l'en sors. C'est quoi
Mais c'est une bonne nouvelle parce que les figures de style qui fonctionnent, ça a aussi un intérêt sociologique. Et donc, justement, chez ces élèves dont on pense qu'ils agressent, qu'ils font cramer des voitures et que voilà, l'antéoccupation, c'est l'équivalent de la concession, c'est-à-dire commencer par présenter à l'autre les arguments de l'autre pour ensuite mieux affirmer les siens. Et donc, ça, voilà, on en a parlé il y a quelques mois. Et voilà, notamment
dans une phrase, oui.
Bah, par exemple, oui, alors vous allez me dire qu'il faut que je me dépêche parce que l'heure tourne, mais j'ai encore quelque chose à dire. Voilà, donc c'est vraiment commencer. Et du coup, l'autre se trouve privé de ses arguments adverses.
C'est pas mal, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont vos mots? Est-ce qu'il y a des mots que vous découvrez, vous, chaque matin, que vous ne connaissiez pas, que vos élèves vous sortent et qui, tout à coup, vous épatent?
Les mots de leur langage?
Oui.
Ah bah oui, tout le temps. Puis il faut... C'est pour ça, eux aussi, hein, la langue, c'est un sujet très important pour eux. Il faut être à la page. Un mot peut perdre son côté, ne plus être à la mode en quelques jours.
Hein, parfois, il y a certains mots. Est-ce qu'on arrive à savoir à chaque fois d'où ils viennent, par où ils sont rentrés, si c'est des déformations, des choses d'autres langues, des choses de la télé, d'autres choses? Alors, arrive à retrouver l'histoire de chaque mot qui débarque?
Ça dépend des milieux. Hein, mais moi, pour ce qui est de mes élèves, il y a beaucoup d'apports de l'arabe. Parce que bah, c'est parfois leur milieu d'origine, la langue que parlent leurs parents, etc. Et puis après, ça devient une mode. Hein. Wesh, par exemple, maintenant, c'est plus du tout spécifique au 93. Wesh, c'est vraiment étendu à une tranche d'âge qui est celle des ados, voire plus d'ailleurs.
Wesh, c'est comme kiffer. Ça, c'est des mots qui sont rentrés maintenant dans le langage, langage officiel, dans le langage plus vieux, oui.
Et d'ailleurs, ça les étonne toujours de savoir que ça rentre dans le dictionnaire. Hein. C'est toujours l'occasion de leur dire, mais le dictionnaire, ce n'est pas la norme, c'est l'usage.
Oui.
Donc quelqu'un qui arrive et qui entend « wesh », il faut qu'il puisse savoir ce que ça veut dire.
C'est comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans qui disent « sur le Coran de la Mecque, je te promets que ça, c'est des mots qui sont rentrés dans d'autres... »
Alors moi, je ne connais pas de non-musulmans qui le disent.
Ah si, des gens qui sont... Oui. Mémène, parlez loin du micro, ça montre que vous connaissez bien la radio.
Non, non, mais quoi non, c'est vrai, j'entends des gens qui disent, je te le jure, sur le, comme ils disaient, la vérité si je mens, à un moment donné, ou des trucs comme ça, des gens qui n'étaient pas du tout ni juifs, ni musulmans, ni rien, qui avaient entendu des figures de style incroyables.
Ouais. Wesh, gros, bien posé, au calme. Vous savez ce que c'est ça, Edouard? C'est une un épitrocasme. Et donc, en fait, ça veut dire, c'est des figures qui consistent en une succession de termes à forte valeur expressive. Donc, pas de verbe, mais... On succède comme ça des...
Des cours, des mots brefs.
Ouais.
Donc c'est vraiment, voilà, le matin, bonjour, ça n'existe pas, et même salut, ça va. C'est la lignée de check avec les copains qui sont déjà sur place. Et donc, wesh, gros, bien posé, au calme, quoi, et voilà.
Vous checkez ou pas?
Je check dans un milieu qui n'est pas celui de mon boulot.
Quels sont vos mots préférés, vous, Mathilde Lévesque, dans la langue française?
Mes mots préférés dans la langue française, j'aime bien rigolo.
Rigolo.
Ouais.
Et sur le sens et sur la sonorité.
Oui, c'est ça. Je trouve que justement, ça.
On peut accentuer,
mot,
oui.
Ça, c'est le cratilisme, par exemple. L'idée que le mot incarne bien ce qu'il désigne.
Il est rigolo.
Il est rigolo.
Oui. Et vous le dites avec un petit peu de. Avec tendresse, avec un petit peu de quoi, quand on dit de quelqu'un, il est rigolo.
Bah oui, c'est, ouais, pour moi, c'est plutôt. C'est un compliment, mais il y a aussi un côté un peu mignon, quoi.
Oui. Voilà, alors parfois, c'est pas gentil quand on dit dans certains milieux, oh, lui c'est un rigolo, ça marche plus.
Ouais, alors je l'emploie pas dans ce sens-là.
Vous, c'est plus affectueux. Tu es rigolo, toi.
Une expression qui dit vaut mieux être un rigolo qu'un rigolard.
Ah bon?
Oui, oui.
Vous venez de la créer?
Non?
Oui. Elle est bien.
Allez, merci. Je suis un de ses élèves.
Merci Mathilde. C'était,
merci à vous.
Ça s'appelle Figure Stylée, c'est chez First Edition.
First Edition.
Le patron face à moi m'a bien dit, c'est pas First. Hein. Arrête.
Et on salue vos élèves du lycée Voileau, Donnay-sous-Bois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Quoi, attendez, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pardon d'interrompre ce morceau. Quoi?
Bah oui.
Vite, on va le savoir, 8h, Thierry Parel.
J'espère que vous avez bien voté, ou pas d'ailleurs. J'espère en tout cas que vous ne regrettez rien, parce que c'est quand même ce qui est le plus pénible. Quoi que vous ayez fait, les résultats sont là. Les sondages ne font certes pas une élection, mais force est de constater que les pourcentages du premier tour de la présidentielle sont à peu de choses près fidèles au pronostic des instituts. Enfin, en tout cas, l'ordre d'arrivée n'est pas bouleversé. Alors, ces résultats définitifs depuis 2h30 du matin, les voici. Emmanuel Macron 23,75, Marine Le Pen 21,53, François Fillon 19,91, Jean-Luc Mélenchon 19,64 et Benoît Hamon 6,35. Aucun des autres candidats n'a appelé, alors d'abord tous les autres candidats sont en dessous de la barre des 5%, aucun des autres candidats n'a appelé à voter Marine Le Pen, mais certains en revanche n'ont pas donné de consigne de vote, c'est pas le cas de François Fillon qui lui appelle à voter Emmanuel Macron au second tour. Même chose pour Benoît Hamon, en revanche Jean-Luc Mélenchon par exemple ne s'est pas prononcé, il a annoncé sa volonté de consulter ses soutiens pour décider de l'attitude à adopter au second tour. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud refusent d'appeler à voter Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan a décidé lui de se laisser du temps avant de trancher sur son vote au second tour et les autres candidats ne se sont pas encore exprimés. À droite, beaucoup de ténors appellent à voter Macron.
Vous allez voir mon petit Jean Lassalle, il va appeler à bien me voter, mon petit Jeannot.
Oui, sans doute. Beaucoup de ténors à droite appellent à voter Macron. C'est le cas d'Alain Juppé, François Baroin, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi. On va citer que ceux-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Émanation de la Manif pour tous, le mouvement Sens commun, qui a appelé à voter Fillon au premier tour, refuse, lui, de donner une consigne de vote pour le second, en précisant que Macron et Le Pen, c'est le choix entre le chaos et le pourrissement. Autre réaction, elles sont évidemment nombreuses. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, il appelle à voter Emmanuel Macron. Les mots ont leur importance, ils ne sont pas les mêmes pour Pierre Laurent, mais le résultat, c'est la même chose. Le secrétaire national du Parti communiste appelle à battre Marine Le Pen au second tour. On notera deux choses aussi. D'abord, dans plusieurs villes, des électeurs ont saisi la justice après avoir été radiés des listes électorales. Et puis, hier soir, on en parle peu, mais plusieurs centaines de jeunes antifascistes ont affronté les CRS Place de la République à Paris et dans d'autres quartiers parisiens d'ailleurs. Des échauffourées qui se sont poursuivies bien tard dans la nuit. Dans le reste de l'actualité, le président chinois Xi Jinping appelle à la retenue vis-à-vis de la Corée du Nord. Il a appelé son homologue américain Donald Trump hier. Un porte-avions de l'US Navy doit arriver d'un jour à l'autre au large de la péninsule coréenne. Et puis au moins 35 personnes ont été tuées au cours du week-end au Mexique. La violence entre gangs de trafiquants de drogue a porté le nombre d'assassinats au Mexique à un niveau que l'on n'avait plus vu depuis 2011. En football, Monaco est plus que jamais en tête du championnat de France de Ligue 1 de football. Les monégasques sont allés s'imposer 2-1 hier soir à Lyon en clôture de la 34e journée. Le PSG est en tête avec Monaco, 80 points chacun, mais Monaco d'abord a une différence de but supérieure et surtout Monaco a un match de retard. Nice est 3e avec 74 points. Et puis ça peut intéresser quelqu'un aussi. Hier soir, il y avait un choc entre dans la Liga, c'est le championnat de Ligue 1 de football en Espagne, et Barcelone a battu le Real Madrid 3-2.
Bon, alors on est en France. Politique, on a eu. Foot, on a eu. Eh ben, météo.
Non, non, je ne peux pas. Non, non, je ne veux pas. Mais non, mais non, mais si, mais si. Mais non, mais non, mais si, mais si. Mais non, mais non, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Mais non, mais non, mais si, mais si. Alors aujourd'hui, bonne fête aux fidèles. Attention, il fait soleil et nuages sur toute la France. Les températures seront à Avignon de 9 à 23, à Bordeaux de 6 à 26, à Brest de 6 à 17, à Corté de 7 à 21, à Évreux de 4 à 17, Marseille de 9 à 21, Metz de 6 à 17, Paris de 7 à 18, Poitiers de 7 à 20, Saint-Étienne de 8 à 23, et sur Mars, il fait moins 65. Mais non, mais non,
mais si, mais si.
Mais non, mais si, mais si. Mais non, mais non, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais non, mais non, mais si, mais si.
Jacques souvent dans la rue, merci Tito.
Mais si, mais si, mais si, mais si. Je suis avec Alan, il me dit Messi, il a mis deux buts hier, c'est vrai Alan?
C'est vrai.
Oui, c'est bien ça. Doublé de Messi face au Real de Madrid. C'était une petite chanson footballistique.
Alors, il y a... Il y a Messi, le footballeur, il y a le Messi qu'on attend, le retour.
Le sauveur du monde.
Hein, le sauveur du monde. Et puis il y a le Messi qui est le contraire de Ménon. Lequel vous préférez des trois?
Messi, le footballeur. Hein. Il apporte plus de joie.
Il vous apporte plus de joie peut-être au quotidien, peut-être dans les filets, mais peut-être cette grande joie qui vient du cœur, c'est peut-être l'autre. Hein. Vous n'attendez pas du tout le Messi, monsieur. Alors.
Je l'attends aussi, mais ça sera la fin du monde et on ne va plus vivre s'il revient. J'ai envie de profiter un peu de ma vie.
Vous pensez que c'est lui ou nous? Il n'y a pas de place.
Bon, à ce qui paraît, donc je ne sais pas, mais bon.
Alors, vous marchiez dans la rue, monsieur, et Jack vous a... Comment il aborde les gens, Jack? Vous étiez là, il vous a dit quoi?
Ben, super bien. Il est super bien. On a discuté et franchement, rien à dire. Hein. Il fait bien son travail. Rien à dire.
C'est plus que son travail, c'est sa passion. Vous discutiez de quoi?
Oui. Bon, on discutait de mon métier, comment ça se passe, comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, quoi.
Et c'est quoi votre métier?
Ben là, je vais rentrer à la mairie de Paris pour faire éboueur.
Oui.
Donc voilà, j'ai fait 8000 km pour ça, donc je suis très content.
Vous savez qu'hier, on avait le patron des poubelles, il y a quelques jours, de Montpellier, Loulou Nicolas, qui nous a raconté toute sa vie.
Oui.
Il était éboueur et maintenant, c'est le patron de toutes les poubelles de la région sud.
Ah ben moi, si il m'engage dans le sud, je dis pas non, il fait plus chaud là-bas.
Alors vous avez fait 8000 km, vous êtes arrivé d'où alors?
Ben, de la Guadeloupe, je viens de la Guadeloupe des Antilles françaises, Guadeloupe du Gosier, oui. La chaleur, donc voilà.
Alors, vous gardez un pied là-bas, vous y allez régulièrement?
Ben, depuis que je suis venu ici, non, je ne suis pas encore retourné en vacances.
Oui. Mais
bon, je suis venu pour un but précis, donc pour le moment, non. J'ai fait 29 ans de ma vie là-bas, donc voilà.
29 ans, puis à un moment, quoi, il n'y a pas assez de débouchés de boulot là-bas?
Ben voilà, c'est ça. Il y a très peu de CDI. Il y a beaucoup de CDD, beaucoup de missions d'intérim, mais pas de longues missions. Et bon, quand on est en mission, on peut pas... C'est bien beau le soleil, les cocos, mais bon, ça ne nous fait pas vivre, quoi.
Oui.
La plage, tout ça. Donc, il y a un moment, il faut passer à sa vie.
Alors, c'est quoi les horaires des éboueurs à Paris, là, maintenant? C'est quoi vos horaires?
Ben, moi, là, je vais signer mon contrat, donc je ne sais pas encore...
Ah, vous allez signer aujourd'hui?
Voilà. Donc, normalement, il y a une tranche d'horaire de 6h à 13h. Oui. Et une autre tranche qui commence à midi et demi, qui finit à 20h, je crois. Et l'autre, c'est une équipe du soir, qui fait de 20h... Je m'en rappelle plus, j'ai pas la fiche devant moi, je m'en rappelle plus à quelle heure ils finissent, mais je crois... pour 23h et quelques ou minuit, un truc par là.
Alors, quelle est la tranche horaire que vous visez?
Ben moi, je vise n'importe. Hein.
franchement, moi, je suis motivé à bloc. Hein.
Alors, quel genre d'éboueur vous allez être, monsieur? Vous allez être les boueurs qui se grouillent, qui foutent tout à l'intérieur, qui disent aux automobilistes derrière hey, « ça va, ta gueule, on passera quand on passera » ou vous allez être dans la conciliation
Non, je vais bien faire mon travail parce que j'ai pas envie de me faire virer. J'ai pas...
parce que sinon...
Non, parce qu'à la base, on sera en formation d'un an.
Oui.
Après, on sera titulaire, donc moi, je vais être assez sérieux sur mon travail. Parce que c'est très important, parce qu'on a un rôle important pour la planète Terre, pour le quotidien des personnes qui vivent. Parce que s'il n'y a pas des boueurs, il y aura une tonne d'ordures. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous quand on respire. Donc non, je vais faire bien mon travail.
Eh bien, écoutez, alors c'est bon, vous êtes engagé, vous signez.
Oui.
Lisez bien les petits trucs en filigrane. Oui, hein. Parfois, il y a des trucs
mais louches. La paix ici, c'est pour ça aussi.
Bon, et la paix est bonne.
Oui, la paix est ici, donc on ne va pas se plaindre. Hein.
Alors, celui qui gagne plus, c'est le mec qui conduit le camion, non?
Oui, c'est ça. Mais après, c'est un poste évolutif.
Oui.
Donc, on peut admettre à conduire le camion, on peut devenir chef d'équipe, on peut évoluer. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un qui est ambitieux.
Alors, je vais juste maintenant vous mettre en situation. Je suis là, je suis garé derrière vous. Vous êtes en train de ramasser les ordures là dans une rue. Vous êtes en train de bloquer la rue parce qu'il n'y a pas de la place pour deux. Je suis derrière vous, je veux voir votre réaction. Mais vas-y, bouge là, ta belle merde, je suis en retard.
Mais moi, j'appelle mon chef. Hein. C'est la consigne. Dès qu'il y a un problème, on appelle le chef.
Très bien. Eh bien, moi, je vais chercher le mien. Mais s'il n'y avait pas de chef, qu'est-ce qu'on ferait, cher monsieur? Il y a un moment, il faut prendre vos responsabilités.
Oui, c'est sûr, mais ben, moi, je reste patient, je reste calme. Donc, il n'y a pas de souci.
Eh ben, vous n'avez pas besoin d'appeler votre chef. Votre calme suffit à résoudre les situations.
Oui, il faut rester calme et il n'y a pas de souci. Tout problème a une solution.
Merci, belle journée à vous.
Ben, je vous remercie en tout cas et bonne continuation à vous.
À vous aussi.
Et je peux faire un petit peu
plaisir. Avec plaisir, bien sûr.
Parce que comme moi, je fais de la musique, donc j'invite aux auditeurs et auditrices d'aller sur Facebook ou YouTube et de taper Nia Style.
Comment vous écrivez ça?
N-I-A et plus loin S-T-Y-L.
Très bien.
Et vous allez voir.
On vous quitte sur une chanson de vous maintenant. Alors vous êtes obligé de chanter avant que je raccroche.
Non, je vous conseille Suivre ma destinée.
Non, mais je vous écoute, monsieur.
Ah ben, il faut suivre sa destinée et sa famille la combler. Voilà. Bon, je peux pas
c'est vraiment la bande annonce, c'est un teaser. Salut, belle journée.
Allez, bonne journée. Au revoir.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi. Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Hein?
J'ai été en retard, donc j'ai été malade dans le mot.
Donc je mets ça, Maxime. Attends. C'est un monsieur ou une dame
Mon maître ou
C'est un maître, c'est ton maître. Oui, donc je mets monsieur. Je mets son nom de famille ou je mets juste monsieur? Bon, je sais pas qu'est-ce qui est plus... Non, c'est plus poli, monsieur. Monsieur, Max... Alors, là, t'avais quoi, à quelle heure?
Normalement, l'école, elle ferme à 8h30.
Ah mince, mais tu veux dire qu'ils vont pas t'ouvrir si t'arrives après? Il faudrait escalader?
Non, mais il y a une sonnette.
D'accord, bon, alors on sonne. Je dis, alors, monsieur, si Maxime sonne aujourd'hui, hein, parce que tu vas sonner.
Bah non, mais c'est un professeur, parce que mon professeur, lui, sera déjà monté en classe.
D'accord, donc, alors, attends, d'accord. Alors, donc, je n'évoque pas le fait que tu vas sonner, Maxime. Je dis juste, Maxime est en retard. Comment je fais le mot? Aide-moi un petit peu, là. Alors, monsieur, Maxime est en retard. Je commence comme ça? Non. Qu'est-ce que je mets? Excusez Maxime? Ou arrêtez de gueuler, c'est bon, on peut être en retard une fois, non? Non. Qu'est-ce que... Maxime, donne-moi une idée. Quand t'es malade, il y a écrit quoi sur tes mots?
Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui les écris.
Mais tu les écris pas, mais tu les lis. C'est tes parents qui le font. Et c'est ton père qui est le monsieur avec une massue derrière nous. Hein? Et tu ne le lis pas, le mot?
Bah non, je le donne directement à monsieur Métayer.
Mais imagine que, par exemple, ton père dit « Monsieur Métayer, n'hésitez pas à donner des grands coups de pied au cul de Maxime. Il vaut mieux le lire avant, quand même. » Non? Tu le lis jamais?
Non, jamais.
Et tu n'as jamais eu de problème? Tu n'es jamais en retard?
Bah, cette année, ça va être la seule fois.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc c'est un petit peu de ma faute. Donc, je suis désolé, mon vieux. Et après, les autres, ils vont te regarder bizarrement dans la classe ou pas? Non, il n'y a pas de problème. En plus, c'est pour dire un poème à la radio. T'imagines, c'est quand même un petit peu la classe. C'est quoi ce poème?
Le papillon.
C'est un poème que tu as appris à l'école, celui-là?
Oui.
Et tu l'as passé devant monsieur Métayer?
Non, pas encore.
Bon, alors viens le répéter. On le répète ensemble et puis je pense que si ça se passe bien, on lui dit, là, t'as une très bonne note. Alors on écoute le papillon. Est-ce que tu veux mettre le casque comme ça, tu vas bien t'entendre que tonton Atmen t'a laissé à côté. Alors, le papillon.
Le papillon. Né au pays de la soie fine, dans un cocon venu de Chine, l'Orient est peint sur ses ailes. Jaune ou bleu, vert ou vermeil, il vole, il va, il vit sa vie, à petits battements ravis. Dans l'air doux comme un éventail. On le voit, on ne le voit plus, il est ici, il est là, ou bien c'est un nouveau venu. Son jumeau qui passe là-bas. Ah, mettez au clou vos filets, jetez épingles et bouchons. Laissez-le libre, car il est la poésie, le papillon.
Superbe. C'est de qui, ça, alors ?
De Marc Alain.
D'accord. Tu en connais des papillons, toi ? T'en as rencontré dans la vie ? Qui sont posés sur toi, déjà ?
Non.
Ils sont jamais posés ?
Non.
Et tu penses qu'on pourrait avoir un papillon comme il y a des gens qui ont un chien ?
Non.
C'est quoi tes animaux préférés, toi ? Pas trop.
Si.
Mais tu te rappelles plus trop. Ou tu préfères pas. T'es pas obligé d'aimer les animaux. Peut-être tu préfères les objets. Il y a une chaise que t'aimes bien, par exemple.
Non.
Il y a pas une chaise sur laquelle t'aimes bien t'asseoir à l'école. Tu dis pas c'est ma chaise celle-là.
Bah, on a tous une table et une chaise à chacun.
C'est qui vous est imposée toute l'année, mais on finit par les
non,
aimer.
Non, pas forcément.
Non.
Parce qu'on peut se déplacer. Hein. On peut.
C'est le monsieur Météi qui vous déplace, qui vous dit arrêtez d'être à côté, vous bavardez trop, ou c'est vous-même qui vous placez où vous voulez ?
C'est monsieur Météi qui nous déplace.
Toi, t'as déjà été déplacé depuis le début de l'année ?
Oui.
Tu sais pourquoi ?
Non.
Tu penses que tu bavardais trop avec la personne à côté ou pas ?
Oui.
Ah oui, c'est peut-être ça a peut-être un lien. Est-ce que tu fais parfois la sieste après le déjeuner à l'école ?
Non.
Bon, écoute, je suis sûr que oui. Bon, mon vieux, je te laisse y aller, je te fais ton petit mot pendant quoi, la pub ?
Pendant un petit morceau de musique.
Avant de retrouver Marie Misset, on va mettre Monsieur Météier.
On peut se servir des élections, peut-être, comme prétexte.
Oui, qu'est-ce qu'on peut dire, Atmen ?
Que le petit...
a été élu ?
Non, il était pour Jean Lassalle, et puis comme il n'est pas passé, il est préféré rester à la maison.
On dit ça ?
Oui, c'est mieux.
Oui.
Mais si, c'est plus drôle.
À tout de suite, Maxime. Ouais. Marie Misset, dites-moi, oui. Jeudi et vendredi, vous avez fait votre revue de presse en public à Montpellier, à Marseille, devant des centaines. C'était extraordinaire, hein, les émissions.
Oh,
c'était un plaisir, c'était un bonheur là, d'être là à Montpellier jeudi, à Marseille vendredi. Ça vous a intimidé ou ça vous a plu de
Alors, j'ai bien aimé le premier jour. Le deuxième jour, Gérard Depardieu est arrivé pendant ma chronique.
Ah oui.
Et vous avez parlé par-dessus
moi. Non, c'est
moi.
Pas ça, mais c'est que l'arrivée de Gérard Depardieu, c'est quand même un truc électrique dans l'air. Il t'arrive
derrière complètement.
Vous avez dû sentir...
Mais même moi, j'avais envie de me retourner.
Non, c'est-à-dire qu'on est là, tout à coup... quelqu'un qui a faim.
Et donc, alors... très logiquement, les gens regardaient Gérard Depardieu.
Mais on vous mène, sauf moi, qui vous regarde.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour.
Ce matin dans la presse, hein, vous imaginez bien que les élections font la une. Le Figaro se concentre sur son champion et déclare que l'imperdable a perdu, l'impensable s'est imposé, l'impossible est advenu, la droite est KO. Dans le reste de la presse, les analyses convergent vers le même point, finalement bien résumé par le quotidien britannique Le Guardian ce matin. Quel que soit le vainqueur dans deux semaines, la France est sur une nouvelle voie politique. Avec une autre convergence dans la presse
matin. Ils sont bons dans le Guardian.
Ah ouais. finalement, c'est quand même l'analyse qu'on retrouve un petit peu partout. Celle de la fulgurance du destin politique d'Emmanuel Macron. Libé parle d'une OPA menée en 1 an et 7 jours. Et ici et là, on use pour parler du candidat de En Marche de beaucoup de métaphores spatiales, hein, comme si Jacques Cheminade avait malgré tout infiltré la présidentielle par le champ lexical. La fusée Macron, dit le Parisien, un météore sous une bonne étoile, titre aussi La Croix, mais la meilleure métaphore spatiale revient quand même au Gorafi, justement à propos de Jacques Cheminade, qui disait hier, battu une troisième fois à la présidentielle, Jacques Cheminade quitte la Terre et se transforme en comète. Quitte à aller dans l'espace et à prendre de la hauteur de vue sur cette présidentielle qui ouvre donc une nouvelle voie politique, on peut lire l'intéressante interview de Laurence Lessig sur une nouvelle politique tout court, disponible sur lemonde.fr. Alors que l'expression « vote utile » est encore sur toutes les lèvres et dans tous les papiers, l'un des principaux penseurs d'Internet réfléchit à comment rendre la démocratie beaucoup plus représentative et il avance quelques pistes intéressantes. Il parle notamment d'expériences menées aux États-Unis où vous allouez votre vote à certaines personnes pour certains sujets. Par exemple, vous pouvez décider qu'une personne vous représente pour les questions fiscales et une autre pour les questions environnementales. Et c'est une expérience, selon lui, impossible à mener sans la technologie, à laquelle d'ailleurs il n'accorde pas du tout une confiance aveugle. Il estime par exemple que le ciblage très exact des électeurs en partant des données, eh bien, c'est pas bon pour la démocratie, puisque ces techniques permettent d'adresser exactement aux gens le message qu'ils ont besoin d'entendre pour qu'ils se disent « Ah, lui, c'est mon gars !»
Et puis c'est la même personne qui finance quand même toutes les... tout ça, je veux dire, c'est l'environnement ou la sécurité. On ne peut pas choisir deux personnes différentes, puisqu'il en faut une qui choisit
on pourrait avoir des
à
représentants,
quelle spécialité vont l'argent, non ?
Écoutez, je pense qu'on peut réfléchir à cette question, mais je trouve que cette
idée
est quand, quand même intéressante. C'est l'assurance de cibler vraiment les gens que des gens finiront déçus et en colère. On a besoin de politiciens authentiques qui font ce qu'ils promettent. Vous ne pouvez pas faire ça si vous vous séparez en 50 000 versions de vous-même. Toujours dans cette idée qu'on vient d'enterrer 60 ans de tradition politique française, il y a partout ce matin dans la presse l'idée qu'il faut refonder. La droite pour le Figaro, la gauche pour les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. On cite d'ailleurs dans Libé le discours de Jean-Luc Mélenchon. Vous, les gens, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. Une identité forgée dans l'opposition, c'est exactement ce que Libé décrit dans un grand papier aujourd'hui, consacré aux Indiens américains, dont l'activisme flambe à nouveau depuis le combat contre l'oléoduc de Standing Rock. Sur cette terre, Standing Rock, qui porte un héritage de lutte indienne très fort, Sitting Bull y a été assassiné, Bigfoot et 300 Indiens, femmes et enfants, y ont été massacrés, c'était par l'armée américaine en 1890. Et bien malgré leur défaite, l'oléoduc est en cours de construction, la colère a recréé un mouvement moribond. L'article termine sur ces mots. Les nations autochtones sont unies ici et partout dans le monde. Le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Et puis pour terminer cette revue de presse, si on veut jouer à se faire peur en imaginant une France toute fermée sur ses frontières, à la recherche d'un passé imaginaire perdu, on peut lire l'amusant reportage du Figaro qui raconte que beaucoup de touristes viennent en Corée du Nord, des touristes chinois. Eh bien pourquoi ? C'est une manière pour eux de remonter le temps, de voir à quoi ressemblait leur pays dans les années 60, de ressentir le frisson de l'aventure et de s'apitoyer sur le sort des Nord-Coréens. Quelle pauvreté, ils n'ont rien, lit-on. Oh, comme je suis contente d'être chinoise, lit-on encore. Le défi peut-être justement des années à venir consiste à pouvoir dire « Oh, comme je suis content d'être français ». Et pas le contraire.
Merci beaucoup Marie Missé. Alors la grande question du jour, hein, Thomas, c'est François Hollande se représentera, se représentera pas?
Bah, c'est le suspense.
C'est
évidemment,
le suspense, on ne sait pas.
Il le laisse comme ça. C'est en suspens, on attend.
On suit bien l'actualité ici, à plus près de toi, tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Oui, Edouard Baer et son équipe. Alors, nous sommes en...
Et surtout Thomas.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a des émissions politiques sur Radio Nova et notamment QG de campagne. Mais le dimanche, hier, on pouvait pas parler politique, mais QG de campagne, c'est l'équipe de QG de campagne, Arnaud Muller et Karine Lelouette étaient sur le terrain néanmoins, et on va l'entendre sur les ondes de Nova cette semaine et dimanche prochain. Et Arnaud Muller, vous êtes toujours à Hénin Beaumont où vous étiez hier soir. Bonjour.
Ouais, je suis retenu à Hénin Beaumont, effectivement, parce que ce matin, en fait, on a passé la soirée au QG de Marine Le Pen, et ce matin, elle doit normalement faire un marché dans le coin, et donc on essaie de savoir où elle va aller. Il se peut que ça soit à Béthune, dans le Pas-de-Calais.
Qu'est-ce que ça signifie, faire un marché?
Faire un marché, c'est en gros aller se montrer, aller préparer le second tour, faire campagne, rencontrer les gens, le peuple, comme dit souvent Marine Le Pen, parce que hier soir, ce qui était assez curieux, Thomas, c'est que en fait, son QG, elle avait installé son QG bien en périphérie de la ville, hein, bien loin du peuple dont elle se revendique, justement. C'était une grande salle très sécurisée, donc avec plus de 600 journalistes. Et voilà, là, elle va aller rencontrer le peuple, comme elle dit.
Comment ça s'est passé hier soir, Arnaud? Vous étiez sur place déjà, donc vous étiez déjà à un moment. C'était quoi l'ambiance avant les résultats, au moment de la proclamation des résultats et dans la suite de la soirée?
Écoute, c'est très paradoxal ici à Hénin Beaumont, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est étrangement calme en fait. On a l'impression qu'il est arrivé quelque chose de tout à fait normal en fait, hein, Thomas. Je te rappelle que, enfin, on a malheureusement l'habitude ici des victoires électorales frontistes. En 2014, Steve Briouat, l'actuel maire, il avait remporté l'élection municipale dès le premier tour avec plus de 50% des voix. Donc, alors, le paradoxe, hein, ici, ce matin, c'est que les résultats, c'est que Marine Le Pen n'a fait que 46,5% hier, ce qui est énorme. Mmh. Mais si tu veux, ça relativise un petit peu la joie des militants frontistes locaux, bah, que j'ai suivi hier, notamment lors du dépouillement. Et ce n'était pas la tête des grands jours, hein, dans le bureau de vote où on comptabilisait les voix. Très étrange, en fait, très étrange. Alors, ensuite, je suis allé au QG donc, de Marine Le Pen, en périphérie de la ville. On a mis une bonne heure avant de rentrer. On était un peu dans la foule avec les militants, les journalistes. C'était très chaud, c'était même un peu tendu. Ils ne nous aiment pas. Et d'ailleurs, à noter qu'un collègue a été refoulé, c'est Mathias Destal, notre collègue de Marianne, auteur d'un excellent livre d'enquête sur Marine Le Pen. Il était accrédité, on lui a dit non, toi tu rentres pas.
Ça veut dire que les gens sont repérés, certains journalistes sont repérés.
Oui, on était triés, fouillés, enfin voilà. Et à l'intérieur, drôle d'ambiance là aussi, hein, l'air de fête, c'est sûr au départ, mais moi j'ai d'abord rencontré des militants très en colère, hein, conscients pour la plupart que ce serait quasi mission impossible pour le second tour, c'est eux qui le disent. En revanche, les cadres du front avec qui j'ai parlé, Racheline et Steve Briouat, eux ils nous disent... Non, on va y arriver, on va rassembler. Alors quand on leur demande, mais comment vous allez rassembler? Là, ça se complique parce qu'ils nous disent tous, nous, on ne va pas faire comme les autres. Chez nous, il n'y a pas de gamelle. Tu sais, ils utilisent beaucoup ce terme, la gamelle. Mais la gamelle, en gros, c'est promettre des postes, des circonscriptions à d'éventuels, pour d'éventuels ralliements. Par exemple, on sait qu'il va y avoir des échanges téléphoniques avec, bien sûr, Dupont-Aignan, avec les Républicains aussi. Et en fait, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une cinquantaine de circonscriptions que le Front National a gelées, que le parti n'a pas accordé à ses militants pour peut-être les
pour ménager des ralliements, en fait.
Voilà, exactement. Donc, en fait, comme d'habitude, le Front National dénonce des pratiques dans d'autres partis qu'elle s'apprête à faire lui-même, quoi. Voilà. Mmh.
Est-ce que dans les débats, dans ce que vous avez entendu hier à un moment, ou même ce matin, Arnaud, l'idée du débat de l'entre-deux-tours arrive? Parce qu'on a l'impression que ça, c'est vraiment très fortement annoncé et presque attendu par Marine Le Pen, en tout cas dans son discours hier. Est-ce que les militants ou les cadres en parlent?
Le débat de l'entre-deux-tours?
Le débat qui s'annonce.
Pas vraiment. Non, vraiment, on n'a pas l'impression. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression que pour les militants, ça reste un vote de colère, un vote de contestation. J'ai l'impression qu'il y a une impossibilité à se projeter plus loin, quoi. Et voilà. Et en revanche, chez les opposants, j'ai terminé la soirée assez tard dans les bars des Nains Beaumont, où il y avait quelques opposants qui venaient un peu noyer leur chagrin. Et eux, effectivement, notamment l'opposition de gauche, elle est un peu abattue, mais elle prépare déjà l'avenir. Ce qu'ils aimeraient ici à Hénin Beaumont, c'est qu'il y ait un front très fort contre Marine Le Pen et que par exemple la jeune candidate écolo qui est élue au conseil municipal, Marine Tondelier, elle espère être candidate justement peut-être contre Marine Le Pen, hein, qui risque de se présenter ici. Et elle rêve de rassembler de Mélenchon à Hamon, voire plus loin que rassembler. L'urgence, c'est plus ça.
Arnaud, c'est ce qu'on entendra sans doute dans les reportages que vous allez fabriquer cette semaine, qu'on diffusera sur Nova en cours de semaine, sans doute mercredi dans le Grand Mix, et puis évidemment QG de campagne dimanche prochain.
Oui, Arnaud, c'est à semaine là. Hier, on a vu des images de la fête un petit peu qu'il y avait dans le QG de Marine Le Pen.
Ouais.
On a vu Pierrette Le Pen danser avec la sœur, tout ça. C'était quoi comme musique? J'ai cru que c'était de la biguine, non? Ou du zouk, non? C'était quoi?
Il y avait un peu de tout, il y avait un peu de techno-trash, il y avait... Mais alors, Atmen,
c'est important.
Pierrette, je l'ai interviewée d'ailleurs, on pourra l'écouter dimanche, elle se faufilait. Ce qu'il faut dire là, sur ces images qui ont circulé un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux de fête, c'est que, attention à l'effet grossissant, hein, de ces images, des caméras, sincèrement, ils étaient une vingtaine à danser, quoi, et à boire énormément. Mais autour, il n'y avait pas grand monde. Il y avait surtout des caméras et des journalistes qui filmaient cette scène. Voilà.
Merci Arnaud. Dites-moi si je me trompe, c'est Edouard, mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé en journaliste, non pas sceptique, mais objectif, lointain, avec un œil quasi professionnel. Et petit à petit, vous êtes laissé séduire par l'atmosphère, les propos. Vous avez été pris dans cette séduction qui opère, cette tentation du vote Front National. Qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud?
Non, je vais vous confier. Bon, je vais vous confier quelque chose, Edouard. Non, pas du tout. C'est juste que je suis un enfant de ce pays, quoi. Donc j'y suis attaché, Edouard. Je suis né ici, j'ai grandi ici, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. C'est pour ça que je suis comme ça, quoi, un peu.
C'est bien.
Attaché, vous c'est voyez bien.
Tout c'est à vrai. Fait, cher Arnaud.
Il faut trouver des raisons d'espérer encore, Edouard, non?
Absolument, il y en a
toujours.
Plein. Il y en a plein. Salut, salut, chers camarades.
Salut.
Thierry Paret, c'est l'espérance fait homme.
Emmanuel Macron se voit en président des Patriotes face à la menace nationaliste. Le candidat du mouvement En Marche est donc arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, hein, avec 23,75% des voix. Il devance Marine Le Pen, 21,53%. La présidente du Front National, qui bat le record historique de voix du Front National, avec plus de 7,6 millions de suffrages, confirme donc l'implantation croissante, hein, du FN dans le pays. Autre première historique, c'est la droite qui est éliminée au premier du second tour. François Fillon est arrivé en troisième position avec 19,91%. Il devance Jean-Luc Mélenchon, juste derrière, 19,64% des voix. Benoît Hamon termine, lui, à la cinquième place avec un score particulièrement bas, 6,35%. Les autres candidats, ils sont en deçà de la barre fatidique des 5% qui permet de se faire rembourser ses frais de campagne, et c'est particulièrement cruel pour Nicolas Dupont-Aignan puisqu'il obtient 4,75% des voix. La bataille pour le second tour, elle a évidemment déjà commencé. Aucun des candidats battus n'a appelé à voter Marine Le Pen pour le moment. François Fillon et Benoît Hamon ont d'ores et déjà appelé à voter Emmanuel Macron au second tour. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé sa volonté de consulter ses soutiens pour décider de l'attitude à adopter au second tour. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud refuse d'appeler
pas
à
Philippe
voter.
Poutoun. Vous avez dit Philippe Poutoun.
Philippe Poutoun, Nathalie Arthaud refuse d'appeler à voter pour le second tour. Nicolas Dupont-Aignan a décidé de se laisser du temps avant de trancher sur son vote au second tour. Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau ne se sont pas encore exprimés. On notera aussi plusieurs choses. D'abord, dans plusieurs villes, des électeurs ont saisi la justice après avoir été radiés des listes électorales. Et puis hier soir, plusieurs centaines de jeunes antifascistes ont affronté les CRS Place de la République à Paris. Ce sont des échauffourées qui se sont poursuivies bien plus tard, enfin jusque très tard dans la nuit, dans d'autres quartiers que celui de la République. Si vous avez voté pour un ou une candidat qui a perdu, bah sachez qu'il y a pire. Alors je ne sais pas si ça va vous consoler, mais il y a aussi le supporter du PSG qui a voté Mélenchon. Hein, pour lui, c'est la double peine, puisque non seulement son candidat a perdu, mais en plus son club voit le titre lui échapper. Alors c'est pas encore plié. Mais c'est quand même mal barré. Monaco s'est imposé 2-1 hier soir à Lyon en clôture de la 34e journée. Monaco reprend la tête du championnat à égalité de points avec le PSG, 80, mais avec un match en retard. Contre Saint-Etienne, Nice est 3e avec 74 points. Et puis en Espagne, Barcelone a battu le Real Madrid hier soir 3-2 et reprend la tête du championnat. Et Messi a inscrit son 500e but avec le Barça.
Merci Thierry. J'essaie d'appeler mon ami Barca parce qu'il paraît aussi qu'elle a été radiée, qu'elle a dû... Comment on fait quand on est radié, Nico? En fait, elle était radiée des listes aussi. Elle ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre, cette histoire de radiation.
En fait, elle était radiée. Elle l'a découvert en rentrant dans le bureau de vote. Et ce qui était très compliqué, c'est que d'un coup, elle s'est dit qu'elle était dans l'incapacité d'aller voter. Donc, on lui a demandé d'aller à la mairie voir un juge qui lui a permis de voter en mairie. Et d'ailleurs, elle ne sait pas très bien ce qu'elle va pouvoir faire pour le second tour. Et je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là.
Bah alors, ma Barca. Alors, on est avec Jack souvent dans la rue.
Oui. Mais oui, c'est pour ça, parce qu'on pourra l'attraper.
Les gens ne voient pas. Les gens, quand ils regardent en bas, jamais en l'air. C'est normal qu'ils ne voient pas.
Ils ne regardent jamais en l'air, alors que là cet été, il devait y avoir plein de fruits.
Non, malheureusement non, parce qu'ils ne le traitent pas.
Mais n'importe quoi.
C'est de la vigne sauvage.
Bah oui.
On est au printemps, donc c'est normal qu'on ait des grains.
Bah oui.
Mais...
Il y a plein des grains, ça n'a même pas joué.
Mais ils vont pas grandir beaucoup plus.
Oui, mais on pourra les manger cet été.
Je vous le déconseille, ils sont amers.
Vous les avez déjà goûtés?
Non, mais...
Vous voulez manger des pigeons?
J'ai des grands-parents qui étaient paysans, ouais. Et qui avaient des vignes, et il m'est arrivé de...
Moi aussi, j'ai des vignes. Moi, j'en ai des vignes, moi.
Ah ben, oui, mais alors vous savez très bien que les grains, lorsqu'ils vont grandir, enfin, mourir, ils vont être amers, parce qu'ils sont sauvages.
Bonjour, madame.
Oui, hélas.
On est je ne sais pas quelle rue on est rue... Rue de la Cerise.
Au niveau de la garde républicaine.
Ah oui. Et alors en fait, il y a des vignes qui poussent le long des murs. On va pouvoir manger du raisin cet été en marchant dans la rue. Et ce qui est marrant, c'est que ça sort d'un terrain militaire. Donc il y a une pancarte avec terrain militaire défense d'entrée. Et les vignes sont en train de se barrer.
Et qu'est-ce que vous en tirez finalement de cette histoire de militaire qui se transforme en aliment?
Ah monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez vu la vigne?
Oui.
Vous la connaissez?
Oui.
Comment ça?
Non, je la connais pas, mais je vous vois en état de minération devant. Je trouve ça très joli aussi.
Mais vous trouvez pas ça bien qu'on devrait planter des arbres fruitiers dans Paris?
Mais je sais pas, ça va donner des raisins, si.
Vous voyez pas les petits raisins, là?
Ouais, c'est sympa, ouais.
Mais madame dit que c'est trop amer, que c'est des raisins qui sont ni des raisins de table, ni des raisins pour faire du vin. Jacques, arrêtez de vous extasier pour rien.
C'est pas une dame. Qu'est-ce que vous avez dit?
Je vous invite à voir le buisson suivant avec des oiseaux qui chantent tous les matins.
Qu'est-ce que c'est que cette rue? Elle est magique!
C'est magnifique.
Dans Paris, il y a encore des petits coins sauvages, vraiment écologiques.
Vous en connaissez d'autres?
Oui, mais je ne vais pas vous les dire.
Mesdames, vous avez vu le raisin, là? Là, il y aura du raisin cet été. On pourra marcher dans la rue. Et...
génial.
Vous n'aimez pas le raisin, vous? Ouais, on va aller voir le petit buisson suivant. Il y a les oiseaux qui chantent.
Oui, en effet, il y a des oiseaux. Vous les entendez, d'ailleurs.
Vous n'étiez pas en train de bosser, là?
Oui, j'étais en train de bosser, mais c'est pas bien grave. Je peux me permettre quelques minutes.
Je vous invite à voir.
Bonjour.
Buisson suivant.
Et le petit buisson suivant, là, il y a des oiseaux qui chantent, regardez.
Oui, je sais.
Vous avez vu, il y en a beaucoup.
Il y en a deux qui nichent ici. Un raisin qui ne fera jamais de vin, je vous invite à voir le buisson suivant. Tout est dans le buisson suivant. Tout est dans le prochain. Tout est à venir. Merci, voilà. Jacques Sourd.
7h, 9h, plus près de toi.
Ça va ?
Plus près de toi. 7h, 9h,
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
C'est notre comparse Karine Leloët qui est là tous les samedis normalement.
Voilà, non, tous les dimanches.
Tous les dimanches, j'embrouille un tout petit peu parce que je dors du jeudi matin au lundi matin. Karine, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez chez tonton Macron hier soir.
Chez tonton Macron, on a eu le nez creux là avec Arnaud là. Un chez Le Pen, autre chez Macron, vous voyez un peu.
Oui, parce qu'on n'avait pas de quoi envoyer des correspondants dans tous les QG de campagne et vous avez choisi
à la courte paille au départ et puis finalement ça s'est bien passé.
Alors Karine. J'avoue, je me suis quand même accréditée chez Fillon qui était en face.
Montrez-moi comment c'est une accréditation de presse.
Vous voyez, je me suis quand même accréditée en face, c'était juste en face de la porte de Versailles, au cas où, ça tournerait mal pour Macron.
Donc vous n'y êtes pas allé, vous ne savez pas si... D'accord,
Parce que les deux lieux de rassemblement des partisans étaient proches, c'est ça?
C'est ça,
Paris.
Juste en face quasiment, ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a des partisans de Macron au sortir du meeting qui ne se sont pas privés quand même de passer devant les fenêtres du QG de Fillon, un peu bravachement.
Ah, alors, ce qui est très intéressant, Karine Leloët, parce que il faut le rappeler, vous êtes l'autre moitié de QG de campagne, c'est l'émission dimanche 13h. J'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de QG de campagne hier dimanche parce que c'était jour de vote, donc on ne pouvait pas parler politique sur les antennes. Et vous avez retrouvé sur place hier, du côté des partisans de Macron, des visages que vous aviez eu l'impression de avoir déjà vus, mais pas à cet endroit-là. Quoi.
C'est ça, tout d'un coup, j'ai vu des gens comme ça et je me suis dit, lui par exemple, ce jeune homme, là, je les connais, je les croisais. Et alors, c'est allé un peu vite dans ma mémoire et c'était un jeune homme que j'avais croisé lorsqu'il soutenait Bruno Le Maire à la primaire de la droite. Il était très très engagé, je l'ai dans un de nos sujets d'ailleurs. Il était un soutien fervent de Bruno Le Maire. Et puis je lui dis, mais alors qu'est-ce que vous faites là? Et ce jeune homme quand même, donc il a d'abord soutenu Bruno Le Maire. Ensuite, quand son candidat a perdu, il a soutenu François Fillon. Et puis quand les affaires sont apparues, il s'est dit, je vais voter blanc. Petit tour par Jean Lassalle, au passage, et se retrouve chez Macron, comme quoi...
Il y a des gens qui ont besoin de s'engager d'abord, ils verront pour qui après, enfin, c'est ça, il y a une énergie qu'il faut canaliser. Quoi, oui.
Voilà, alors, donc il y avait vraiment des gens de partout.
Il y a une image hier qui a un peu frappé pas mal le monde qui a regardé la télévision, c'est justement les partisans d'Emmanuel Macron, quand il est monté sur scène, ce côté très, tout à fait triomphal de son arrivée, du ton, du discours. Et est-ce que, vu de l'intérieur, il y avait aussi ce décalage, il y a une petite confusion entre victoire partielle après un premier tour et triomphe absolu.
Alors oui, mais il faut savoir quand même qu'on a été chauffé vraiment, vraiment très très longtemps par une musique très entêtante. Moi, j'étais devant les caissons de basse. Je peux vous dire que quand même, ça fait monter
l'adrénaline.
Voilà, il y a ce côté, on attend le chef, on attend le patron, etc. Quand même 30 minutes d'attente. J'étais juste à côté du compositeur de la petite musique de Macron, d'ailleurs.
C'est quoi
très électro. Vous allez l'entendre pendant 15 jours, vous inquiétez pas.
Est-ce qu'il a repris des grandes chansons du répertoire français qui est dedans?
Il y a beaucoup de pop, beaucoup de musique brite, beaucoup de musique américaine, un côté comme ça. Un peu Obama, un peu Trudeau, dont il se revendique un peu. Donc voilà, et puis il est arrivé sur scène, donc il y a un côté très fervent comme ça.
Avec Brigitte, ils sont arrivés à deux, Brigitte, ce qui est très rare.
Voilà, avec quand même encore cette image très anglo-saxonne.
Ce qui est le sosie de Michelle Obama, Brigitte Macron.
Il y avait les filles aussi de Brigitte, qui étaient là tout près, il y a eu des bains de foule. Vraiment, on avait vraiment l'impression d'une victoire absolue. Eux, ce qu'ils disent les militants, leur victoire ce soir, enfin hier soir, excusez-moi.
Vous y êtes encore.
ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Leur victoire hier soir, c'était d'être premier, en fait. Ils s'attendaient très fort à être au deuxième tour, mais ils disaient, voilà, on a gagné, on est devant Marine Le Pen. Alors quand même, quand on leur posait la question, mais attendez, rappelez-vous, en 2002, les gens descendaient dans la rue, Marine Le Pen était au deuxième tour. Est-ce que vous... Jean-Marie Le Pen, excusez-moi, était au deuxième tour. Je leur disais, vous allez descendre dans la rue, là, vous vous apprêtez, beaucoup de jeunes étaient là. Il me regardait d'un air un peu étonné en me disant dans la rue, quoi dans la rue, qu'est-ce qui se passe dans la rue.
Et oui, c'est autre chose. Et Karine Leloëtte, vous imaginez, vous avez fait plusieurs campagnes, vous êtes allé souvent à des QG, à des meetings. Est-ce que c'est très différent comme population? Est-ce que quand on arrive, ça ressemble à... Est-ce que c'est, voilà, c'est mélangé? C'est comment ce public-là?
Là, chez Macron, il y a des gens de partout, vraiment. C'est ça qui est étonnant. Il y a des gens qui se sont ralliés dès la première heure, il y a un an. Il y a des gens qui étaient ralliés depuis deux jours. Il y a des gens qui étaient traînés là par des potes, qui avaient senti le vent tourner.
Mais je veux dire à l'œil, excusez-moi, est-ce que ça ressemble? On se dit, tiens, c'est évident que c'est plutôt bourgeois, populaire, que c'est évidemment de droite, de gauche, ou ça ressemble? Non,
c'est vraiment très mélangé. Toute génération, il y avait des plus vieux comme des plus jeunes, il y avait des enfants. Non, je ne peux pas dire qu'il y avait un phénotype de l'électeur Macron.
Et vraiment. Le buffet, est-ce que c'est très différent? Est-ce qu'on sent quand
buffet,
c'est plus luxueux? Il n'y avait rien
buffet.
À bouffer, rien à boire.
Chez les journalistes, jus de pomme, jus d'orange et des cacahuètes.
On avait peur que vous dérapiez.
Rien du tout. Et je suis quand même, moi, allée à la Bastille après. Enfin, en tout cas, à République, Bastille était finie, les manifestations. Et j'ai rencontré des déçus, vraiment dégoûtés, en fait, de ce premier tour. Notamment des jeunes, souvent électeurs de Mélenchon, qui étaient dans la position du nini. C'est-à-dire, nous, on ne votera ni Macron, ni Le Pen. Et qui déjà imagine un avenir très sombre pour les cinq prochaines années.
Et c'est ce qu'on entendra sans doute dans QG de campagne dimanche.
Je vous le garantis.
Voilà, et c'est un reportage demain dans le Grand Mix Matin qui est présenté par Anna Florie Lamour. Merci beaucoup Karine Leloëtte.
Merci de votre matinalité.
Je vous en prie.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Edouard, bonjour. Il y a des matins comme ça, on a envie d'écouter.
Mais non, mais c'est extraordinaire l'ambiance aujourd'hui parce qu'il y a des musiciens qui sont en train de chauffer leur tambour. You are heating your tambour. You put some heat on it. C'est très, très étonnant. Ils frottent. Comment ça s'appelle? What's the name of this tambour? Tambour. Comment? Ce sont juste des drums, en fait, simplement. Donc arrêtez de manger. Voilà, pardon, c'est extraordinaire l'ambiance ici au Café Nova. Rudy.
Tout à fait, on accueille ce matin un projet exceptionnel, un projet monté de toutes pièces par le label Chapter 2 Records Feu Macassan et qui regroupe parmi les plus grands musiciens de la Jamaïque. Ceux qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'influence américaine, ceux qui défendent plus que jamais l'idée d'un reggae à ses sources, à ses racines, un reggae aux valeurs humanistes, spirituelles, de liberté, d'amour et de regard sur les autres, en toute bonté. Ce matin, la verrière de Nova se transforme en yard jamaïcain, les yards en Jamaïque étant ces arrière-cours à ciel ouvert qui baignent dans la musique live du soir au matin. Une musique faite en extérieur, donc principalement acoustique, où l'énergie du collectif se danse, se dandine à l'émotion brute de ces voix sans artifice, the power of togetherness. Unité. Ce matin, c'est l'âme de la Jamaïque, The Soul of Jamaica, titre de ce majestueux album de Inadi Yard qui regroupe, et attention, la liste est aussi belle que longue, Winston Bo P. Bowen, Kidus Aye, Cédric Congo Maiton, Winston McAneuf, Deraja, Kush McAneuf, Fonso, Kevor Var Williams, Robbie Lynn et Ruel Rice Ashburn. Ils étaient à la Philharmonie samedi, il paraît que le concert était tout simplement exceptionnel. Ils seront le 27 octobre prochain au Trianon. On va commencer avec un titre qui est sur cet album, qui est Stone, et qui va être interprété à la voix par Deraja et Sir Winston McAneuf, qui est là à ma droite. Messieurs, welcome. Bless.
Merci. 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 C'est incroyable. C'est du lourd ce matin, Rudy. Hein?
De quoi, de quoi réchauffer nos âmes et nos cœurs et ne jamais cesser de parler d'unité, de spiritualité et d'humanisme. C'était Inadi Yard.
Inadi Yard, merci. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve avec grand plaisir demain. Et voici les 30 Glorieuses.
Snoop Dogg et My Medicine pour clore ce Plus Près de Toi.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus Près de Toi.
Point final.